pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Les deux histoires que nous racontons aujourd'hui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, à première vue. La première se passe entre l'Inde et la France, entre l'orphelinat de Mère Teresa, le quartier des Filles de Joie de Calcutta et une banlieue chic parisienne où grandit Moruni. Elle est adoptée à l'âge de 2 ans par une famille française. Elle garde encore des images de son arrivée et de son départ. Nous sommes à la fin des années 70. Pendant une courte période, des facilités sont accordées aux étrangers, aux Français notamment, pour adopter des enfants indiens. Puis le mouvement s'arrête avec l'arrivée en Inde d'une classe moyenne qui peut à son tour adopter les orphelins. Des années plus tard, à l'âge adulte, Moruni quitte son pays d'adoption pour son pays d'origine, en quête de son histoire pour le moins surprenante. Pour Alaa, le chemin est inverse. Adolescent, il fuit son pays d'origine, la Syrie, meurtri par une guerre sans fin. Contraint et forcé, il arrive en France, dans la ville bien nommée du Havre, où il rencontre un pays qu'il adopte et embrasse avec ferveur. Quelques années plus tard, après des aventures tout aussi étonnantes, il se dit fièrement franco-syrien. Deux histoires géographiquement et historiquement sans rapport, qui pourtant sont liées entre elles par une certaine idée de l'adoption, de ce en quoi elle est une adaptation, une reconstitution, un fantasme. Nous avons tous, dit Freud, à un moment, rêvé notre adoption. Et c'est même un stade essentiel de notre développement. L'enfant s'invente une autre famille, riche, puissante. Plus tard, il se trouve une autre filiation. Il s'imagine fils de prince ou de roi. Ce qui lui permet, dit Sigmund, de reconstituer une image idéalisée des parents qu'il a fini par perdre. Dans ces conditions, comment accepter le vrai lien de l'adoption? Comment être adopté et créer son fantasme de l'adoption quand on a été soi-même adopté? À l'inverse presque, comment créer ce lien et adopter au sens actif un pays, une culture? Sur quelle base et quel fondement, au propre et au figuré, c'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, deux histoires de pays d'adoption par Delphine Saltel et Pauline Peretz.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je m'appelle Moruni Turlot. Je suis été adoptée. D'abord, je suis arrivée d'un orphelinat de Mère Teresa sur... Vraiment au centre de Calcutta, c'est le Shishu Bhavan. Shishu, c'est enfant, et Bhavan, c'est l'immeuble. Donc, c'est l'immeuble des enfants. Et après, je suis arrivée à Orly avec un charter, quoi, enfin de sœurs des missionnaires de la charité, et avec plein de petits-enfants dedans, et avec une répartition et des dossiers. C'est-à-dire que tu sors de l'avion, il y a une... Il y a une sœur qui a en charge 10 enfants et pom pom pom, elle donne les dossiers. L'info vraiment qui est lue dans mon dossier, c'est que j'ai été trouvée sur un tas d'ordures pas loin de Kaligat. Kaligat, c'est le temple de Kali qui a donné le nom à Calcutta. Et à côté, il y a vraiment le mouroir avec les tuberculeux, les Et à côté, il y a un orphelinat, du coup, voilà. Donc, du coup, moi, j'ai fait des recherches et donc sur des copines, quand je suis devenue amie avec les filles. Et donc, c'est exactement le même texte. C'est exactement le même tas d'ordures, les mêmes angles de rue, et même en face du même temple. C'est le texte copié-collé. Le nom change, l'âge change, mais le récit est le même. Enfin, c'est faux. C'est pas possible qu'il y ait un tas d'ordures avec des enfants dessus. Enfin, moi, je trouve ça c'est très étonnant que les familles d'accueil puissent entendre ça. Enfin, que ça puisse pas tilter dans leur tête, enfin, que ça soit naturel. C'est l'impression que c'est une vision très traditionnaliste de l'Église, c'est-à-dire que tous on est des enfants du bon Dieu et qu'on est arrivé comme ça. Presque ils te disent pas que tu viens d'un homme et d'une femme. Voilà, on dit que je viens d'une famille pauvre et que j'ai été abandonnée et qu'on m'a retrouvée sur un tas d'ordures. et qu'on me dit aussi que j'ai de la chance d'être là. J'ai grandi comme ça. Première nuit où j'ai dormi, il n'y avait pas de lumière, pas un bruit, Là, j'étais toute seule dans une chambre toute noire. Je me souviens des odeurs, de l'odeur de... des odeurs super différentes. C'était un accueil tout à fait amical, dans une famille catholique de gauche, avec un papa, une maman, des frères et sœurs. Ils voulaient un quatrième enfant, et donc, du coup, comme ils étaient du coup gâteaux, ils sont passés par là, quoi. Ça s'appelle l'association du rayon de soleil, ou un truc comme Soleil d'or, je sais pas, qui faisait l'intermédiaire avec les sœurs de la charité de Mère Teresa. Ma famille, à ce moment-là, c'était de mon point de vue, c'est des gens très étranges. C'est trop grand, trop blanc, ils ne savent pas cuisiner. Enfin, pour moi, c'est quand même quelque chose. Ils ne parlaient pas bengali, mes parents. J'ai mis à peu près 6 mois à parler. Donc, moi, pour leur faire plaisir, j'ai accepté de parler, de sourire, de remanger, de vivre. Il y a toujours un peu l'épée de Damoclès, ils ne m'ont jamais dit, et puis ils ne m'ont jamais fait ressentir. Mais moi, c'est toujours le truc, si je ne suis pas gentille, ou si je faisais des colères, ou j'en sais rien, ils allaient me retourner dans l'avion. Donc du coup, voilà, et moi, ça m'est resté, en fait, et ça me reste toujours, en fait. Mes parents, ils ne m'ont pas donné le dossier avant mes 18 ans. Je savais qu'il se passait un truc de louche, mais je n'avais pas les preuves, en fait. Et moi, je commençais déjà à rechercher mes origines, mais aussi à connaître l'histoire de l'Inde. J'ai appris mon pays, j'ai appris la ville, j'ai appris Kaligad, j'ai appris... Voilà, mais je l'ai vraiment appris dans les livres, dans les films, ou dans les encyclopédies. Mais voilà, je l'ai appris comme ça. Donc vers 22 ans, je suis partie en Inde à Calcutta rejoindre une amie. Ça s'est fait sur un coup de tête. Je me suis dit en fait que comme je connaissais l'Inde dans les livres, il fallait que je la voie en vrai. Je partais en tant que touriste, en tant que française. C'était aussi simple que ça. J'arrive à Calcutta et là je m'attends à... j'arrive en tant que touriste et en fait rien que sortir de l'aéroport, il y a une odeur qui me revient, mais enfin il y a du bruit, il y a tout ça, et en fait dès ce moment-là je me dis je suis revenue chez moi. Et puis les gens, ils sont de la même taille que moi, ils sont de la même couleur que moi, ça je le savais, mais se retrouver à parler face to face à des gens, enfin vraiment, et pas parler à leur épaule ni à machin. C'est vraiment quelque chose de très. Enfin, pour moi, c'était super émouvant. Et puis les odeurs, franchement, les odeurs, c'est quelque chose de. Enfin voilà, je sais pas. Enfin, ça m'a sauté au nez, au visage, partout dans le corps. Enfin, c'est quand même quelque chose. Donc, je me suis dit que j'étais chez moi et que j'allais enfin pouvoir me fondre. Donc, puis je suis directement allée à Kaligat, parce que du coup c'était quand même un peu ça le projet, et d'aller voir qu'est-ce que c'était que ce tas d'ordures, qu'est-ce que ça voulait dire. Enfin, je m'imaginais vraiment pas ça non plus. Kaligat, c'est indescriptible, mais c'est une espèce de retour au bled. Puisqu'en fait, Kaligat, il y a le temple de Kali, il y a le mouroir de Mère Teresa, il y a les sœurs de la charité qui sortent tout le temps. Alors moi, je vais donc là avec mon papier du dossier d'adoption, et j'y vais, je regarde, et à cet angle-là de la rue, il n'y avait pas de tas d'ordures. Et puis, je suis revenue plusieurs fois, hein, vraiment, je suis revenue peut-être 3 fois par jour. Enfin bon, c'était devenu un peu mon quartier, machin. Donc les gens, ils commençaient à comprendre ce que je cherchais, à vouloir, machin. Et puis, ils me demandent de lire le dossier. Donc je leur fais lire le dossier. Et on m'emmène à l'orphelinat. Et c'est dantesque. Moi, j'ai cru arriver en enfer. C'est-à-dire que... J'ai eu le droit à la chef de communication de la missionnaire de la charité. Visage bien sévère, tout sec, tout... Et donc, j'avais mon dossier, c'est un dossier rouge, et je vais la voir, et je lui dis, ben voilà, moi, je suis née en 74, enfin, je lui raconte ma vie, je vais être adoptée en 76, nanana. Et là, la dame, elle me dit, de toute manière, il y a eu un grand incendie dans les archives, on peut pas savoir. Et je dis, ben ok, enfin... Et puis, je laisse mon numéro de là où j'habitais, et elle me rappelle. 2 ou 3 jours après. Elle me dit, bon, non, mais il n'y a pas eu d'incendie, mais on ne peut pas vous donner les informations. Puis je continue à aller voir cette mère, la mère Sula Dircom des missionnaires de la charité. Et puis elle me demande, elle me fait de la psychologie, elle me dit, pourquoi vous voulez savoir qui est votre mère biologique? Et elle me dit, mais de toute manière, votre mère, c'est une pute. Donc, j'ai dit, ah oui, bon, d'accord. Et donc, nous, je suis allée voir les prostituées avec l'idée de voir qu'est-ce que c'est qu'une femme prostituée en Inde et qu'est-ce que c'est qu'une femme prostituée qui lâche son gamin. Je suis cette piste-là et je vais à Sonagashi, qui est le quartier prostitué hindou à Calcutta, qui est un truc, je sais pas s'il n'y a pas 30 000, 40 000 prostituées. Y a beaucoup de monde à Calcutta, c'est 18 millions, donc du coup forcément. Et toutes elles étaient touchées par mon histoire et toutes, et puis des amis qui ont commencé à chercher, à se dire potentiellement on pourrait demander à la fille d'à côté, à la dame, à la tante, à la machin, voir si jamais. Du coup, j'ai pas trouvé. Et en fait, elles m'ont raconté que les enfants, elles les abandonnaient pas. elles les gardaient, elles s'en occupaient. Il y avait des écoles pour eux. Donc ça, c'est la première déconstruction de ce que m'avait dit la femme des missionnaires de la charité. C'est-à-dire que déjà, oui, on ment sur de comment elle récupère les enfants. Puisque ces enfants-là sont pas abandonnés. Et ils mentent sur comment les femmes éduquent leurs gamins. En fait, ils mentent sur pas mal de trucs. Et là, ça me réveille un truc de dégoût par rapport à Mère Teresa, par rapport à tout ça. Parce que je suis retournée lui dire à la femme, je lui ai dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, voilà. Et puis après, elle m'a dit que de manière, elle était communiste. Donc, je suis allée voir les communistes. À chaque fois que cette mère supérieure me disait, mais de toute manière, ta mère, elle vient de là, vient de là, vient de là. Moi, j'allais voir là où elle me disait. Donc, après, elle m'a dit qu'elle était paysanne des Sundarbans. Donc, je suis allée dans les Sundarbans. C'est le delta du Gange. En fait, ils n'ont pas d'explication. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent... Ils font une appel d'offres et ils vont dans les familles ou dans les zones les rurales ou les plus les pauvres et en fait ils vont et ils regardent le nombre d'enfants que une famille a et ils disent voilà nous on peut vous en avez 5 on peut vous en prendre 2 parce que comme ça vous vivrez mieux. Et ils donnent 500 roupies qui est beaucoup hein. C'est beaucoup. Puis ils ont un réseau tellement important de sœurs, de macros, de gens qui repèrent pour eux, pour elles. Et donc ils disent, là il y a 10 enfants, et donc ils partent en bus, ils vont chercher les 10 gamins. C'est un trafic missionnaire, c'est dégueulasse comme métier. J'ai pas trouvé ma mère biologique, ni mon père biologique, ni mes frères biologiques, mais ce que j'ai trouvé, c'est le fonctionnement de Mère Teresa et des missionnaires de la charité. C'est pas du tout au nom de la paix qu'elle a fait le système d'adoption ou les mouroirs ou tout ça. Après, je pense que le combat sur voilà, essayer qu'en France, on évite de la glorifier, de l'idolâtrer, de penser que c'est quand même une femme formidable, alors que c'est rien qu'une traditionnaliste catholique qui vend des petites filles.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Ala Osamuddin, j'ai 19 ans, je viens de la Syrie, je suis né à Damas en 1998 et jusqu'à 2011, je vivais ma vie comme n'importe quel enfant qui est en train de vivre son enfance. Et après 2011, ma vie a changé. Il y a eu une révolution qui s'est transformée en guerre civile et j'étais obligé de vivre beaucoup de choses qui ne sont pas très faciles. Et je me trouve aujourd'hui ici en France, en 2017. Je suis en train de faire les études de médecine après avoir mon bac ici en France. Et voilà. Dans cet état de transition entre la révolution et la guerre, il y a eu beaucoup de bombardements sur les civils. Il y avait la destruction partout, il y avait des bombes, des missiles qui tombent tous les jours. On se sentait en danger, surtout qu'après que mon oncle est parti, on s'est caché pendant 4 mois, personne ne savait où on était. On ne savait pas si le régime va nous chercher ou pas. Il y a 2 moments dans ma vie où j'ai vraiment vécu la mort. C'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. Bon, là, en fait, ça fait 5 ans à peu près. C'est que des souvenirs. Ça me fait pas mal de raconter. Mais ouais, à l'époque, c'était compliqué. On est sorti parce qu'il y avait un bombardement à côté de notre nouveau logement qui était dans le quartier Yarmouk, qui est un quartier assiégé, bombardé tous les jours. Il y a des civils qui meurent de faim et de soif tous les jours. Et on est obligé de descendre. Et il y avait des missiles qui tombent. On est obligé de courir. Donc on court, et il y a les missiles qui tombent partout. Et quand les missiles tombent, en fait, il y a des éclats qui sortent. Et si l'éclat touche la personne meurt directement. Parce que c'est très chaud, et voilà. Et je ne sais pas comment, en fait, on était 3 familles. Ma famille, la famille de mon oncle, la famille de ma tante, et personne n'a été blessé. Je ne sais même pas comment. Et donc ça, c'est la première fois. La deuxième fois, il y avait un bombardement d'avion. C'était 2 mois après, à peu près. Et on était en train de déménager. Donc on a trouvé notre logement qui était plus caché. Normalement plus caché, ça veut dire que c'est mieux. Parce que les missiles et les bombes, ils ne vont pas arriver. Et pendant le déménagement, il y a eu un bombardement d'avion. C'est un truc qu'on ne peut jamais imaginer. Apparemment, l'avion, il a bombardé une mosquée et une école où il n'y avait que les réfugiés dedans. Et c'était fait exprès. Et il y avait les opposants qui sont entrés dans le quartier. Et donc là, en fait, la guerre vraiment commençait. Enfin, il fallait partir le plus vite possible. Parce que le régime commençait à bombarder, mais n'importe comment. Et quand on est parti un tout petit peu trop tard, enfin, quelques heures après. Et il y avait des soldats, les opposants, qui se tirent entre eux. Et nous, on était obligés de traverser au milieu. Et je ne sais pas comment on a fait pour sortir, mais on est sortis. Et je suis resté chez mes parents avec ma famille jusqu'à 2013. Et mon père, il nous a dit, bon, on ne peut plus rester là, ça devient très compliqué. Il fallait partir. Et vu que c'était très compliqué d'avoir les papiers administratifs à cette époque-là, on avait juste des cartes d'identité et le seul moyen, c'était de partir au Liban. À cette époque-là, c'était le seul pays qui peut nous accepter sans le passeport. Tous mes souvenirs, c'était vraiment chez moi. Hein. Enfin, ils sont toujours chez moi. Si chez moi existe encore, je sais pas. Donc voilà. Donc quand on est parti, on a pris beaucoup de souvenirs, mais pas matériels, voilà. Et on est resté au Liban à peu près 1 an. C'était très compliqué. Enfin, pour un petit garçon de 14-15 ans, c'était choquant. C'était vraiment choquant. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de rêves, beaucoup de projets. Et c'est de devenir médecin, par exemple. Et c'était impossible dans ces conditions-là au Liban. Et en plus, mon père, il a travaillé au Liban. Enfin, il a essayé de travailler. Enfin, il avait une toute petite somme d'argent. Et il a essayé d'ouvrir quelques boutiques. Et en même temps, de faire un petit bureau pour aider les Syriens à trouver un travail. Mais vu que c'était pas le même pays, c'était très compliqué. Enfin, apparemment, le lieu de travail, c'était pas le bon lieu. Il y avait pas trop de monde au début, donc il a tout perdu. Voilà. Comme par hasard, les miracles existent. Voilà. Il y a un jour, c'était le matin, et c'était le mois de décembre, je crois, si je me trompe pas. On a reçu un appel de la part de l'ONU. Donc, l'ONU, apparemment, ils avaient un programme, un projet, c'est le programme de réinstallation. Vu qu'il y a beaucoup de réfugiés syriens au Liban, donc ils vont essayer de les distribuer dans d'autres pays. Voilà. Et apparemment, on a été choisis. Et donc, ils ont choisi la France pour nous. Voilà. Mais on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de passeport, et on n'avait rien. Et ça, c'est vraiment l'avantage du programme de réinstallation avec l'ONU, parce qu'il donne les billets d'avion, il donne les visas, et il donne un papier spécial, il s'appelle laissez-passer, utilisable une seule fois, c'est comme un passeport pour partir. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi ils nous ont choisis, ou comment, ou quels critères ils prenaient, parce qu'on était sept familles à venir, on était les premières familles à venir, donc deux familles du Liban et cinq familles de la Jordanie. On était très différents, on ne se ressemble pas. Il n'y a pas de critères communs entre nous. Je ne sais même pas comment ils ont choisi. Voilà. Bon, après, nous, on avait une situation assez particulière parce que mon oncle, il était le suppléant du ministre de pétrole. Voilà. C'était presque le ministre de pétrole. Et il est devenu opposant. Il a quitté le gouvernement. Et à un moment, il cherchait sa famille. Hein, donc, on était obligé de se cacher. C'est un peu bizarre, mais peut-être c'était au hasard. J'ai toujours rêvé de partir à l'étranger, de faire les études à l'étranger. Enfin, j'ai beaucoup de projets dans ma tête et la France est un bon pays pour faire tout ça. Mais mon seul problème, c'était le français. Je n'aimais pas le français. C'est une langue qui était très compliquée pour moi, incompréhensible, impossible à apprendre. Et bon, je me suis dit, bon, il faut que j'apprenne le français. J'ai cherché où on va en France. J'ai cherché sur Internet les réfugiés qui sont venus avant nous et apparemment, ils étaient dans une ville qui s'appelle Le Havre. Et c'est ma ville aujourd'hui. Et j'ai cherché sur Internet, c'est quoi Le Havre? C'est une belle ville où il y a la mer. Bon, moi je viens de Damas, il n'y a pas de mer à Damas, mais à Tripoli il y avait la mer et je suis devenu ami avec la mer. Le 1er avril 2014. C'était pas le poisson d'avril cette fois, c'était vrai. On est parti. On a quitté le Liban et on est arrivé à Paris, en France. Il y avait un car qui nous attendait et il nous a ramené au Havre. Voilà. Et depuis ce jour-là, je suis toujours au Havre. Donc, on arrive au Havre. On a été logé dans un logement qui était bien. C'était un bon départ, on va dire. Voilà. Donc, depuis mon arrivée en France, je me suis dit, bon, il fallait apprendre le français. Si je veux faire médecine, il faut avoir le bac. Si je veux avoir le bac, il faut apprendre le français. Donc, dès le premier jour, j'ai commencé à apprendre le français. Et j'ai découvert le théâtre. C'était quelque chose que j'ai adoré. Et j'adore toujours. Donc, on faisait 2 heures par semaine, à peu près. Voilà. Et donc, à la fin de l'année scolaire, ils m'ont dit que je dois choisir entre deux lycées. En lycée où il y a théâtre, et en lycée où il n'y a pas théâtre. Alors j'ai choisi le lycée où il y a théâtre, bien sûr. Et donc c'était lycée Porthocène au Havre. Au mois de septembre 2014, j'étais en élève de seconde, comme tous les élèves. Je faisais mes cours comme tout le monde. Et en plus, j'avais 3 heures de français de plus, un samedi matin. Et donc, j'ai fini la seconde avec à peu près 16, quelque chose de moyenne. C'était pas mal, ouais. Et en plus, ce qui était très bien aussi, c'est que j'ai fait l'examen de français niveau B1. Normalement, c'est le niveau des Français, voilà. Et je l'ai eu, avec une bonne note. Et l'année de première était beaucoup plus simple. Déjà, j'ai pris S scientifique, donc on se concentre beaucoup plus sur les matières scientifiques. Et en même temps, j'avais un niveau de français qui était un petit peu meilleur. Et donc, j'ai fini l'année de première. Et puis, je suis passé en terminale S. J'ai eu mon bac avec mention très bien et 17 de moyenne à peu près. J'étais vraiment content. Même si je me suis dit, bon, j'aurais pu avoir plus, mais bon, c'était trop tard. Là, aujourd'hui, je suis en PACES, la première année commune aux études de santé. Donc, pour faire médecine, il faut passer par la PACES. Il y a un concours Et apparemment, elle est difficile, je commence à me rendre compte. Il va falloir bien travailler pour l'avoir du premier coup et pas rater l'année et perdre encore un an. Et malheureusement, j'ai pas pu faire ça en Syrie. C'est dommage, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal. J'ai pas pu réaliser mes rêves en Syrie, mais enfin, j'ai toujours gardé mes rêves, même s'il y a des moments où c'était très compliqué, c'était impossible. Il y a des périodes dans la vie où on se dit, bon, je vais plus rêver déjà. Je sais pas quoi faire, je suis perdu, je vais jamais réussir. Mais en vrai, il faut juste patienter, il faut être patient, il faut attendre, il faut tenter, il faut jamais dire c'est impossible, jamais dire non, il faut essayer. Et c'est qu'une période qui va passer. Après, il y a beaucoup de belles choses dans la vie. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis en France. J'ai fait mes études en France avec les Français. Je mange avec les Français. Je bois avec les Français. On partage tout. Il y a un côté français chez moi qui est en train de grandir. Et je suis sûr que je vais finir par devenir un franco-syrien.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, pays d'adoption, deux histoires racontées par Delphine Saltel et Pauline Perretz. Une émission réalisée par Philippe Baudouin avec un coup de main de Liscombe. Merci à Moroni, à Hélène Azera, à Pauline Niel et à Monsieur et Madame Al-Matari. Sandrine Chapon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Elle était remplacée cette semaine par Liana Valken et Marguerite Delassas, c'est notre stagiaire. Sachez que depuis les faits racontés par la première histoire, celle de Moroni est sans lien, je le précise. L'orphelinat de Mère Teresa a fermé en 2015, notamment parce que les Sœurs de la Charité refusaient de se plier à une directive qui leur demandait de confier les enfants à tout type de famille, y compris des familles monoparentales, et que cette directive était contraire à leurs convictions.